Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Envard, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Jean-Richard Dufour. Aujourd'hui, je reçois Salomon Malka pour nous parler de Jésus rendu aux siens. Salomon Malka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain, directeur de RCJ, la radio de la communauté juive, biographe entre autres d'Emmanuel Levinas, de Franz Rosenzweig, de Vassili Grossman. Vous avez publié de nombreux ouvrages, on vous a reçu d'ailleurs ici plusieurs fois aux Racines du Ciel, et vous rééditez Jésus rendu aux siens, une enquête en Terre Sainte sur une énigme de 20 siècles chez Albin Michel dans la collection Espace Libre. C'est un livre que vous aviez publié je crois il y a 12 ans, moi je l'avais lu à l'époque avec passion. Et vous disiez d'ailleurs dans la préface de ce livre, enfin vous dites aujourd'hui dans la préface de ce livre qui est réédité, que vous aviez eu toutes sortes de soucis à cause du titre, tant auprès des juifs qu'auprès des chrétiens, parce que évidemment le projet est audacieux, c'est de montrer qu'après 2000 ans d'incompréhension, de mépris, de persécution des juifs par les chrétiens, aujourd'hui un certain nombre de penseurs juifs s'intéressaient de plus en plus à Jésus et redécouvraient que Jésus finalement a toujours été juif. Il est né juif, il est mort juif, tous ses disciples étaient juifs. Alors, avant qu'on parle de votre livre et de la redécouverte un peu aujourd'hui, cette réconciliation qui est en train de se passer entre juifs et chrétiens et cette redécouverte par un certain nombre de juifs de la personne de Jésus, j'aimerais qu'on nous raconte, vous nous racontiez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé du temps de Jésus il y a 2000 ans, ce drame initial, ce drame familial, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette séparation aussi violente entre juifs et chrétiens au moment finalement, ça s'est pas passé évidemment beaucoup du temps de Jésus, mais quelques décennies après, lorsqu'il y a eu des grandes querelles au sein des disciples de Jésus, avec, entre eux déjà, et avec d'autres juifs, notamment des pharisiens.
Alors, je retiens votre mot de histoire familiale, parce que ça correspond exactement à ce que j'ai voulu faire dans ce livre. J'ai voulu montrer qu'au fond, tout ça était, à l'origine en tout cas, à cette époque, une histoire familiale, l'histoire de quelqu'un qui est né en Galilée dans un paysage précis, qui a vécu toute sa vie autour de juifs et qui n'a parlé qu'à des juifs, et qui s'est inscrit dans un contexte, et c'est ce contexte aussi que j'ai voulu reconstituer, d'une espèce de période de bouillonnement culturel, religieux, spirituel, qu'a été la Judée au tournant du premier siècle. Et c'est dans ce contexte qu'est apparue la figure de Jésus. Et j'ai voulu, effectivement, restituer, c'est une réédition qui était parue initialement en 1999, peu de temps avant la visite de Jean-Paul II en Terre Sainte, et je l'ai remanié un peu dans des circonstances dont je voudrais dire un mot. Le Monde des Religions, un journal que vous connaissez bien, avait demandé à un certain nombre d'auteurs de choisir un verset qui leur parle particulièrement, et moi j'avais choisi ce verset.
Un verset des Évangiles.
Verset des Évangiles, pardon. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. C'est un verset de Matthieu, mais j'imagine, je le dis souvent, votre contrôle, qu'on peut retrouver le même verset dans les quatre évangiles. Et je suis parti de ce verset pour montrer l'enracinement de Jésus dans le paysage à la fois géographique et culturel. Vous avez rappelé que ce livre était paru il y a une douzaine d'années. Le contexte était effectivement différent. Au moment où j'avais publié, j'avais suscité des mouvements d'humeur, autant d'un côté que de l'autre. On m'avait reproché d'avoir voulu accaparer Jésus, ce qui n'était pas du tout mon intention. La rupture dont vous parlez, elle est incontestable. Elle s'est prolongée d'ailleurs sur pas mal de, sur 3 ou 4 siècles. Mais il y a des choses qui demeurent totalement étrangères au judaïsme, à commencer par l'incarnation, à commencer par certains versets aussi des évangiles dont on peut parler. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire d'ailleurs que les thèmes qui sont développés dans ce livre sont quelque chose de communément admis. Mais on peut dire quand même que beaucoup de chemin a été fait depuis, et j'en veux pour preuve, par exemple, le livre de Benoît XVI sur Jésus de Nazareth, où il y a 50 pages sur quelqu'un que je n'ai pas interrogé, qui s'appelle Jacob Neusner, mais qui a des vues qui sont très proches sur ce morceau d'histoire de quelques-uns des chercheurs que j'interroge dans ce livre.
Oui, le grand tournant du côté des chrétiens, ça a été le Concile Vatican II, évidemment, où il y a eu un vrai virage qui a été fait. On a modifié, déjà le pape Jean XXIII avait modifié la liturgie du Vendredi Saint, où on avait enlevé l'expression « les juifs perfides qui ont tué Jésus », donc c'était sorti de la liturgie. Puis le Concile Vatican II a effectivement réouvert le dialogue judéo-chrétien, et depuis il y a énormément de théologiens chrétiens qui travaillent sur les origines du christianisme, et on retravaille beaucoup sur ces questions-là. Il y a beaucoup de groupes de dialogue juifs chrétiens qui existent dans le monde entier. Vous parliez de la visite de Jean-Paul II en Israël, etc. Donc il y a beaucoup de pas qui ont été faits. En même temps, ça m'intéresserait beaucoup de savoir, du côté juif, et c'est ce que vous allez nous raconter dans l'émission, quelle a été la réponse à ça, et comment, du côté juif, effectivement, on perçoit aujourd'hui Jésus. Mais avant d'en venir à ça, je voudrais qu'on revienne au tout départ. Réexpliquez-nous, puisque Jésus est donc né juif, qu'il a pratiqué la religion juive, ça se voit dans les évangiles, il a été circoncis, il a été présenté au temple, il allait au pèlerinage à Jérusalem, il allait faire les différentes fêtes, Pâques, Soukhot, etc. On voit tout ça. Il est mort juif, il n'a jamais quitté sa religion. Comment se fait-il qu'il y ait eu donc autant de haine, peut-on dire, entre juifs et chrétiens pendant 2000 ans?
Écoutez, c'est un fait. Il y a une part de mystère dans tout cela que moi je veux respecter. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a eu... l'hostilité n'a pas été immédiate. Le verset que j'ai lu tout à l'heure montre bien que Jésus parlait aux Juifs du plus profond de leur croyance, et si ça n'avait pas été le cas, il n'aurait pas été suivi, tout au moins dans les premiers temps de sa prédication, par tant de monde. Une foule nombreuse le suivit. Ce sont les évangiles qui le disent. À partir de quand faut-il dater la rupture? Beaucoup de ceux que j'interroge chargent beaucoup, vous le savez, ont une grande tendresse pour Jésus, mais chargent beaucoup Paul. Peut-être parce que une grande partie de cette enquête a été faite en Israël, et beaucoup d'Israéliens probablement ont une tendance à se sentir plus proche de quelqu'un qui a vécu dans leur paysage, qui est quelqu'un du Yishuv, comme il dit, c'est-à-dire de la des lieux. Et plutôt que Paul, qui était un juif de diaspora. Et donc, beaucoup de gens le chargent dans cette... qu'il a été très instrumental dans cette rupture.
Bien sûr, mais surtout sur un point fondamental, à savoir que les nouveaux convertis qui viennent du paganisme ne sont pas obligés de suivre la loi, la Torah, et qui ne sont pas nécessairement obligés d'être circoncis, ils ne sont pas obligés de manger selon la cacheroute. Donc finalement, il a donné la possibilité à des disciples de Jésus de ne plus être juifs et de ne pas se convertir au judaïsme tout en étant effectivement disciples du message de Jésus.
Absolument, mais comme l'a montré quelqu'un que nous connaissons tous les deux et pour qui j'avais beaucoup d'amitié, qui est Pierre-Antoine Bernheim, il y a eu quand même, à cette époque-là, ça a fait un débat. Je veux dire, il y a eu un débat interne à la première église entre Jacques, frère de Jésus, et Paul, ça a été peut-être que la rupture.
Elle vient
date
de là,
ce moment-là.
Fameux, on dit souvent, le concile de Jérusalem qui a eu lieu, je crois, en 48 à peu près, donc 20 ans après la mort de Jésus, où effectivement on voit que Jacques, comme le montre très bien Pierre-Antoine Bernheim, dans son livre qui s'appelle Jacques, frère de Jésus d'ailleurs, on voit que Jacques était un peu le chef de file de l'église, on va dire, judéo-chrétienne, parce qu'il n'y avait que des juifs disciples de Jésus. Et puis Paul, qui finalement a beaucoup voyagé et souhaite faire rentrer dans l'église des gens issus du paganisme, sans les soumettre à la loi juive. Et on voit qu'effectivement, Jacques s'y oppose fortement, puis progressivement, Paul va l'emporter. Et donc, il va y avoir finalement deux églises, une église judéo-chrétienne et une église pagano-chrétienne. Et ça va être le début, probablement, de la rupture. Et puis après, il y a la chute du temple de Jérusalem. Et là, évidemment, ça va être un événement extrêmement important qui va consacrer encore plus la rupture.
Absolument. Mais tout de même, il y a eu toute une période, peut-être jusqu'à ce concile, qu'on peut appeler le concile de Jérusalem, où c'était une histoire familiale, c'était une histoire interne, c'était une histoire intime. Et moi, c'est ce que j'ai voulu montrer. J'ai voulu montrer l'intimité de cette relation entre juifs et chrétiens. Et je vois, par exemple, j'ai un chapitre sur le Jésus dans le Talmud, où j'examine toutes les occurrences de Jésus qui était toujours appelé Oto Ha'ish, cet homme-là. Donc il y avait une volonté de ne pas désigner, ou en tout cas dans beaucoup des occurrences. Mais ce qui m'est apparu à travers la lecture de ces passages du Talmud, c'est que c'est très ambivalent. Il y a des passages qui sont très durs et il y a des passages moins durs. Il y a un passage notamment très important d'un rabbi du Talmud, dont on dit que Jésus était le disciple, Rabbi Yehoshua ben Perachia, dont on cite ce mot. Il faut toujours rapprocher d'une main ce que vous écartez de l'autre. Il faut toujours écarter de la main droite et rapprocher de la main gauche. Alors bien entendu, au fur et à mesure qu'on avance dans l'hostilité entre juifs et chrétiens, puisque le Talmud a été écrit, consigné entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, à ce moment-là, au fur et à mesure qu'on avance dans l'hostilité, les passages sont de plus en plus sévères contre Jésus.
Léon Var, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, vous dites justement, les passages sont de plus en plus sévères. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément ce qu'on lui reproche? C'est-à-dire, en quoi ils sont sévères? Qu'est-ce que Jésus a fait qu'il n'aurait pas dû faire, je veux dire, d'après le Talmud?
Il y a un passage du Talmud où on dit qu'il a brûlé sa cuisine en public. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il a dénigré aux yeux des autres? Il a dénigré son peuple, c'est possible. Il n'y a pas de reproche très précis. Il y a des passages très polémiques. Il y a des passages très polémiques où il est même appelé à un moment donné. Mais ça, je pense que ça correspond aussi à l'évolution du contexte entre juifs et chrétiens, où il est appelé Ben Pandira, Pandira étant un légionnaire romain. Alors là, c'est très polémique. On retrouvera cela dans des textes encore plus polémiques sur la vie de Jésus, mais qui ne sont pas dans le Talmud. Il n'y a pas de reproche très précis. Et sinon, celui de... Il y a aussi un passage où il est dans des auberges, où il passe dans une auberge et où il trouve que les yeux de l'aubergiste sont très beaux. On lui reproche aussi cette tendance à être
à
sensible au charme des femmes, ce qui peut paraître quand même assez
Vous faisiez allusion au fils du légionnaire. Je crois que ce que veut dire le passage, c'est qu'en fait, sa mère, Marie, a été violée par un légionnaire romain et qu'en fait, il est le fils d'un païen, enfin d'un légionnaire romain.
Parce que les reproches que les chrétiens font aux juifs sont quand même assez précis. Par exemple, il y a la notion de déicide, etc. Mais c'est intéressant que donc le Talmud n'articule pas, ne formule pas précisément ce qu'on peut reprocher à Jésus. Donc,
Non, il n'y a pas de
parce que donc c'est sévère.
En tout cas, on ne trouve pas de parallélisme entre le récit des évangiles et les occurrences dans le Talmud. Absolument pas.
C'est plutôt, comme vous disiez, une réponse, je dirais, aux attaques dont font l'objet de plus en plus les Juifs au fil des siècles. Parce qu'on voit au début, au contraire, c'est assez frappant de voir qu'au IIe siècle, IIIe siècle, lorsque, par exemple, il y a la crise du marcionisme, lorsque Marcion, qui est un chrétien très important, un théologien chrétien qui a beaucoup d'influence, veut complètement séparer les évangiles, le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, en disant finalement... Toute la Bible juive, c'est un Dieu mauvais, méchant, etc. Jésus nous révèle un Dieu tout à fait autre. Il faut séparer complètement ces deux corpus de textes. La grande Église refuse. C'est-à-dire qu'il est excommunié et Marcion, finalement, va devenir un dissident parce qu'elle dit non, le destin du peuple juif et le destin des chrétiens est complètement lié. Donc là, on voit qu'il y a encore un grand désir de proximité, même si, évidemment, il y a des interprétations qui divergent. Alors que au fil des siècles suivants, lorsque l'Église va devenir beaucoup plus puissante, lorsque après la conversion de Constantin, elle va effectivement au IVe siècle et puis encore plus sous Théodose prendre le pouvoir et que Théodose va imposer de plus en plus le christianisme comme religion d'État. Et les siècles qui vont suivre, on va voir au contraire des textes d'une violence antisémite extraordinaire chez un certain nombre de pères de l'Église, Jean Chrysostome et d'autres. Et c'est là, je pense, que probablement le Talmud a dû réagir de plus en plus à ces agressions.
Mais le fait même que Marcion ait échoué montre que ça n'est tout simplement pas possible. Il n'est pas possible de séparer les deux histoires, parce que c'est une histoire qui est imbriquée. C'est ça que je démontre dans le livre, c'est que ce sont des pages de l'histoire juive. Et beaucoup de chercheurs juifs contemporains se sont aperçus de cela, qu'on ne pouvait pas détacher totalement ces pages de l'histoire juive. C'est une histoire intime, c'est une histoire familiale. Et Marcion, qui a essayé de couper les choses en deux, n'y a pas réussi.
D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une chose qui est frappante, moi qui me frappe dans tous les livres qui sont depuis 20 ou 30 ans sortis sur Jésus. Tous les chercheurs qui sont pour la plupart chrétiens, enfin chrétiens d'origine, même si beaucoup sont laïcs ou pas forcément croyants, attachent beaucoup d'importance à réancrer Jésus dans son judaïsme, à montrer tout le contexte culturel qui était le sien et qui explique qu'on ne peut pas comprendre les paroles des évangiles, qu'on ne peut pas comprendre son attitude si on ne le réinscrit pas dans cette tradition qui était la sienne. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un retour important. Alors maintenant, on va parler effectivement de la manière dont vous avez mené cette enquête. Mais avant, on va écouter un morceau de musique que vous nous avez choisi. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin de Salomon Malka qui nous parle de son enquête qui a donné lieu à un livre édité en poche, Jésus rendu aux siens. Salomon, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette enquête sur la réappropriation de Jésus par son peuple?
Écoutez, c'est une rencontre... Une double rencontre, une rencontre avec David Flusser, qui est un chercheur disparu aujourd'hui, un peu une espèce de professeur tournesol, très, très marrant, né en Tchécoslovaquie, et qui était le grand spécialiste du christianisme en Israël, et qui avait d'ailleurs, c'est lui qui avait, quand le pape était venu en Terre Sainte, c'est lui qui avait fait un grand papier dans les journaux pour saluer l'arrivée du Saint-Père en Israël. Et lui avait l'habitude de dire, il a consacré sa vie à Jésus, et lui avait l'habitude de dire, Jésus, ben, c'est comme quelqu'un qui aurait pu être assis à côté de moi. C'était un juif pieux, hein. Il y a beaucoup de juifs pieux parmi les chercheurs, ça s'est trouvé comme ça. Et il disait, Jésus aurait pu être quelqu'un qui serait assis à côté de moi à la synagogue et qui écouterait lire les passages de la Torah à partir du pupitre, comme on le fait dans toutes les synagogues de France et d'ailleurs, et comme on le faisait à l'époque dans les synagogues déjà où on lisait le passage de la Torah, il y avait quelqu'un qui prenait la parole, ça n'était pas obligatoirement le rabbin des lieux, mais quelqu'un de passage pouvait prendre la parole, et Jésus l'a probablement fait à de multiples reprises. Et il dit, voilà, c'est quelqu'un qui aurait... C'est un grand frère. Et la deuxième personne, c'est quelqu'un de tout à fait différent, qui s'appelle Chaim Cohen, qui était juge, qui était une belle figure, de quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans le... qui était laïque, né et grandi dans la tradition orthodoxe, mais devenu laïque et même investi dans le combat pour la laïcité en Israël, et qui est le personnage principal de cette histoire que je raconte, je crois pour la première fois, d'un procès en révision de Jésus qui a failli se tenir en Israël dans l'immédiate après, enfin en 1948, immédiatement après la création de l'État d'Israël.
Alors, racontez-nous cette histoire, parce qu'effectivement c'est un des scoops de votre livre qui est passionnant.
Alors, c'est une histoire, effectivement, qui est très particulière. Ça se passe, en 1948. Le président de la Cour suprême d'Israël, qui s'appelle M. Zamora, famille illustre en Israël, parce que c'est un peu le Gallimard israélien, la grande édition qui édite Haaretz, et président de la Cour suprême, fraîchement élu, reçoit une lettre d'un correspondant qui lui dit « Monsieur, vous êtes les descendants, vous, la Cour suprême, vous êtes la descendante directe du Grand Sanhédrin, puisque pendant 2000 ans, il n'y avait pas de souveraineté, donc je ne pouvais pas faire cette requête, et donc je vous demande une révision du procès de Jésus. » Zamora est en même temps stupéfait par la demande, on est en 48, Israël a d'autres soucis en tête, mais en même temps un peu fier, hein, un peu fier d'avoir reçu une lettre de quelqu'un qui lui dit « Vous êtes le descendant direct d'un grand Sanhédrin », ça lui fait plaisir. Et en même temps, il y a d'autres lettres qui arrivent d'Angleterre, de Hollande, et il met tout ça dans un dossier jaune que j'ai vu parce qu'il se trouve aujourd'hui aux archives de Jérusalem. Et il appelle Chaim Cohen, qui est à l'époque un jeune magistrat, et il lui conseiller juridique de David Ben-Gourion, et il lui dit « Écoutez, prenez ce dossier, répondez des lettres gentilles pardon, à toutes ces éminents correspondants, dites-leur que ça n'est pas possible, qu'on ne le fera pas, mais vous-même, essayez de voir ce que vous pouvez en faire. » Et Chaim Cohen a pris ce dossier et il y a passé 20 ans et il a fait un livre qui s'appelle Le procès et la mort de Jésus de Nazareth. Et c'est un livre absolument passionnant qui n'a jamais été traduit en France. Il a été traduit un peu partout dans le monde. Et j'ai voulu rendre hommage à cette figure en même temps en exposant sa thèse.
Ah oui, bien sûr. Surtout qu'il y a une vraie controverse pour savoir si Jésus a vraiment eu droit à un procès. C'est pas sûr du tout. Les évangiles sont un petit peu contradictoires là-dessus. Et il est possible qu'il n'y ait même pas eu vraiment de procès de Jésus, qu'il ait été en fait amené à Pilate directement, parce que certains évangiles parlent d'un procès la nuit et beaucoup de ce qui n'est pas le cas de tous les évangiles, et beaucoup d'auteurs disent c'était impossible qu'il y ait un procès comme ça à la nuit, qu'on réunisse le Sanhédrin, c'était absolument impossible à l'époque que ça se passe comme ça. Donc on n'est même pas sûr que Jésus était jugé par les Juifs. Il l'a été par les Romains, il a été condamné par les Romains, mais il y a eu certainement, il a été livré par les grands prêtres, mais peut-être sans procès.
Alors voilà, ça c'est la thèse précisément. Raïm Cohen a l'avantage d'être un spécialiste du droit romain et un spécialiste du droit hébraïque, enfin du droit talmudique, et il examine une à une les pièces de ce dossier en examinant les deux procès, le procès devant les Juifs et le procès devant les Romains, et en se demandant est-ce que ça correspond aux habitudes de l'époque, est-ce que ça correspond au droit hébraïque de l'époque, est-ce que ça a pu se passer de la manière dont les évangiles nous le disent. Et il a une thèse très précise qu'on n'a pas le temps d'évoquer ici, mais qui est assez passionnante, et comme c'était quelqu'un qui a travaillé dans toutes les bibliothèques, chaque fois qu'il avait un peu de vacances, il l'est passé dans les bibliothèques, et le bibliothécaire du Vatican lui a dit, écoutez, qui le connaissait bien, lui a dit, écoutez, votre thèse n'est pas plus fantaisiste que toutes les thèses qui ont été faites autour de ce procès. Et Raïm Cohen a ajouté à mon intention, mais moi je pense que c'est la bonne thèse.
Léon Var.
Oui, alors sur un sujet comme cela, donc à nouveau, il y a quand même des arguments théologiques, je suppose, qui sont donnés, puisque finalement Jésus est quand même condamné, s'il a été vraiment condamné, sur des points théologiques très précis. Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer d'abord ce qu'on lui reproche sur un plan purement théologique dans la tradition juive, et en quoi est-ce que ça a été révisé, ça, dans la thèse dont vous parlez ? C'est-à-dire cette affaire de roi des Juifs, de Messie, etc.
En deux mots, la thèse de Raïm Cohen repose sur le fait que le procès de Jésus tel que qu'on nous le raconte est tout à fait impossible pour des raisons que Frédéric vous avez évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire on ne pouvait pas faire un procès de nuit. Il est impossible de faire un procès de nuit. Ça n'est pas conforme à la tradition. Il faut toujours faire un procès tachat hashemesh, sous le soleil. Et au surplus, c'était veille de Pâques, et donc c'est totalement impossible que le Sanhédrin se soit réuni pour condamner. Il y a une seule possibilité qu'évoque Raïm Cohen et qui paraît vraisemblable. Alors, bien entendu, elle peut paraître choquante, mais ce que dit Raïm Cohen, c'est qu'il y a une seule possibilité de réunir le Sanhédrin s'il y a une menace de mort, si on veut sauver quelqu'un. Et toujours d'après Raïm Cohen, comme les grands prêtres savaient que le lendemain que le lendemain il devait paraître devant les Romains, ils ont cherché à le faire revenir sur sa décision de se proclamer roi d'Israël et de l'adjurer de ne pas aller au-devant d'ennui devant les Romains. Et donc, vous voyez, c'est un peu un retournement de la situation.
Bien sûr. Alors, c'était pas très facile de trouver un texte sur ce sujet, je vous l'avoue, j'ai cherché en fait dans différentes directions et je suis tombée sur un très beau livre que je ne connaissais pas, qui est une anthologie de la poésie juive du monde entier, depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours. C'est une anthologie qui a été faite par Pierre Hayat. Et là, alors, c'est une mine, je le recommande. Alors, c'est un peu ancien, je ne sais pas si on peut encore le trouver. En tout cas, on le trouve en bibliothèque. Et c'est vrai que c'est vraiment une mine. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de textes, alors à caractère spirituel, religieux, mystique, enfin, selon les définitions qu'on peut donner à ces mots, qui en réalité évoque la figure de Jésus ou qui évoque justement le fait que, au bout du compte, Jésus est aussi une des figures du judaïsme et il est la figure de l'amour, y compris pour les juifs. Et donc, je vous ai choisi là un texte de Israël Zangwill, poète que je ne connaissais pas. Donc, c'est un poète juif, mais de langue anglaise, du 19e siècle. Et c'est un poème qui s'intitule tout simplement « Moïse et Jésus ». Et on voit que, en fait, Moïse et Jésus se retrouvent devant le désespoir et le malheur de leur peuple commun, qui est le peuple juif. En rêve, je vis deux juifs se rencontrer. L'un vieux, aux yeux sévères, mais dont le large front s'auréolait pourtant de la vivante lumière de l'amour. L'autre, jeune, avait un doux regard séraphique. Autour d'eux, la ville dansait sa ronde infernale, tandis que la faim au cœur sanglant, la faim, pâle ménétrier, soufflait dans les pipeaux. « Shalom, Aleichem, paix sur vous, se dirent-ils tristement. » Et les yeux détournés, ils n'osaient se regarder. Tout à coup, dans l'église, les sons puissants de l'orgue éclatèrent, une hymne monta vers le ciel. Et de la synagogue, au même instant, s'élevèrent des chants sonores. Chacun magnifiait l'esprit de son prophète. Alors, leurs yeux, pour la première fois, se rencontrèrent. Dans un regard étrange, douloureux, muet, que voilaient les pleurs d'un mortel désespoir.
Oui, je trouve
que vous connaissiez
pas. C'est un beau texte, mais je dois dire que moi, je suis un peu réticent quand on cherche, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, quand on cherche à mettre toujours Moïse du côté de la loi et Jésus du côté de l'amour.
Ah non, il dit bien que Moïse, il était auréolé d'amour, il le dit bien. Moïse était auréolé d'amour.
Ah!
Donc, c'est pour ça qui m'a intéressé. Comme s'il y avait une filiation entre eux, comme si Moïse était le père de Jésus, d'une certaine façon, y compris dans l'amour. Jésus, en fait, est la figure séraphique, mais Moïse est quand même auréolé de la lumière de l'amour. Et c'est ça qui est intéressant. C'est
parce que je trouve que ce que j'ai essayé de faire aussi, je me réfère par exemple à un chapitre avec David Flusser, où j'interroge David Flusser, qui a fait un travail extraordinaire sur les paraboles. Les paraboles chez Jésus et les paraboles rabbiniques, et on voit à ce moment-là la proximité extraordinaire. Et on a l'impression, quand on relit après ce qu'écrit David Flusser, quand on relit les évangiles, on entend l'hébreu derrière les paraboles de Jésus. Et ce que montre aussi, parce que bon, les chercheurs ont tous, ont chacun sa vision de Jésus. Il y en a pour qui c'est un Essénien, d'autres pour qui c'est un zélote même, d'autres pour qui
pharisien.
C'est un pharisien. Et alors, David Flusser, c'est un pharisien, et c'est un pharisien, c'est-à-dire dans le mainstream, on dirait, du judaïsme de l'époque, et simplement avec... un courant particulier qui était le courant un peu moraliste des pharisiens, représenté par Hillel, le sage Hillel, qui était une figure du Talmud, une figure de l'époque. Et Hillel, quand on lui demandait, il y a un passage d'ailleurs dans le Talmud où on lui dit on se demande quel est le verset le plus important de la Bible. Et il y a un des rabbins qui dit le verset le plus important, c'est « El etoldot Adam », voici les engendrements de l'homme. Et Hillel qui dit le verset le plus important pour moi, c'est « Tu aimeras l'Éternel, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et donc pour David Flusser, qui inscrit Jésus dans les grands courants de l'époque, il appartenait à ce versant-là du pharisaïsme, c'est-à-dire le versant moraliste tel qu'il était représenté par Hillel. Yehesh mei rabo mivorach leolam ul omei o.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous poursuivons notre conversation avec Salomon Malka sur son livre Jésus rendu aux siens. Alors, il y a un point aussi auquel je voulais revenir sur votre livre, c'est que vous nous racontez que finalement un des premiers grands chercheurs juifs à s'être intéressé à Jésus, c'est un certain Joseph Klausner au début du XXe siècle. Alors dites-nous un mot sur lui, sur ce pionnier.
Joseph Klausner, c'est un pionnier, c'est l'oncle d'Amos Oz. Et Amos Oz a d'ailleurs une vision très proche aussi. Je l'interroge et il me dit c'est un grand frère, lui aussi. Et il voit, Amos Oz est quelqu'un de totalement laïque, mais il dit c'est ce que je pense aussi, je me sens très proche d'Amos Oz sur ce plan-là, c'est quelqu'un de très intéressant. De rebelle. Jésus était quelqu'un de rebelle et d'héritier en même temps, héritier d'une tradition, né dans une tradition, quelqu'un donc qui vivait au sein de son peuple. Et Joseph Klausner a eu cet honneur d'une certaine manière, ou en tout cas cette originalité, d'avoir consacré le premier livre en hébreu sur Jésus. Il a écrit dans les années 30 et il a enseigné l'histoire du Second Temple. Il a mis longtemps à être admis parce que c'était quelqu'un de marqué à droite dans l'échiquier politique israélien et que l'époque n'était pas à la droite en Israël. Et donc on l'a un peu à l'université, on a un peu bloqué son évolution, mais il a fini par avoir ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire être le responsable de l'histoire du Second Temple à l'université de Jérusalem. Mais donc c'est lui qui a tout initié en vérité en écrivant un livre qui a eu beaucoup de succès, 7-8 éditions à l'époque.
Il s'appelle comment ?
Joseph Klausner.
Le livre.
Le livre s'appelle Jésus de Nazareth.
Et c'est une histoire de Jésus ?
C'est une histoire de Jésus à partir de... C'est une histoire réinséré dans le contexte
des juifs de l'époque.
Et aujourd'hui, où en est-on ? C'est-à-dire, parce que vous avez cité des esprits brillants, des chercheurs, etc., mais au sein de la communauté juive en général, que ce soit en France ou ailleurs, particulièrement bien sûr au sein des communautés juives qui vivent dans des pays chrétiens, est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait admis, courant, enfin, il y a aucune difficulté au sein des Juifs à reconnaître Jésus comme justement un grand frère, comme quelqu'un qui a aussi apporté sa pierre à l'histoire même du judaïsme. Ou est-ce que non, c'est quelque chose, on le considère comme vraiment à part? Je vous dis ça parce que du côté chrétien, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Si je me permets cette anecdote un peu drôle, un dîner parisien, je rencontre une dame assez âgée, une catholique, très croyante, etc. Et je sais pas, au fil de la conversation, j'ai cette phrase qui l'a énormément choquée. Je dis, mais enfin, tout de même, Jésus était juif. Elle me dit, mais enfin, mais vous n'y pensez pas. Le Christ n'était pas juif, il était catholique.
Oui, mais enfin, ça, c'est quand même
un peu extrême. C'est un peu extrême, mais je crois que ça existe encore. Alors, ça existe encore, évidemment, je pense que ça s'éteint quand même.
C'est une espèce en voie de disparition.
Néanmoins, je ne pense pas que les gens soient si grandement informés sur la question.
Non, mais la question est très bonne.
Voilà, la question est de savoir si aujourd'hui, comment réagit la communauté.
Un juif qui n'est pas spécialiste, qui n'a pas étudié.
Non, il y a toujours des préventions. Il y a toujours beaucoup de préventions. Je raconte les soucis que j'ai eus au moment de la publication. Ça n'a pas totalement disparu. C'est-à-dire, à l'université catholique de Toulouse, quelqu'un qui me dit, écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, mais enfin, si Jésus est rendu au sien, qu'est-ce qu'il nous reste à nous, catholiques. Sans quoi il avait, il avait probablement raison. Et j'ai aussi un juif, un responsable communautaire qui me dit, mais moi je viens d'une maison, d'une tradition où un livre qui porte Jésus en couverture, on ne le fait pas rentrer chez soi quand on est juif. Vous voyez, donc les...
Il y a encore du travail.
Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail.
Mais vous, est-ce que vous connaissez parmi vos amis des gens qui lisent les évangiles ou c'est très rare ?
C'est assez rare quand même. C'est assez rare. Mais
aussi bien en Israël qu'en France.
Oui, c'est.
Il y a encore un blocage un peu mental, c'est-à-dire Jésus égale le christianisme et qui a tant fait souffrir, j'imagine évidemment, le peuple juif pendant longtemps.
Voilà, il y a une, il y a des thèmes qui restent des thèmes difficiles pour les juifs, le thème de l'accomplissement, le thème de l'incarnation, le thème, tous ces thèmes-là sont des thèmes difficiles à faire passer chez les juifs, et le thème d'accomplissement en particulier. Et au regard de l'histoire, de ce que des croisades, de l'Inquisition, etc., tout ça reste présent dans la mémoire juive, et on ne peut pas dissocier totalement l'histoire du christianisme et de ce que Jésus est venu accomplir. Donc là, il reste un problème très fort.
Lélie ?
Oui, alors justement, vous citez dans votre livre une conférence que Lévinas avait donnée à ce sujet, sur ce dialogue difficile, voire impossible, et pourtant à rechercher quand même. Et alors, je vais lire ce petit commentaire que Lévinas fait, mais avant, évidemment, le texte qu'il commente, à savoir juste quelques extraits du texte de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Donc il fait allusion à l'histoire du mouton que le petit prince demande à l'aviateur de lui dessiner. Donc voilà, ça commence comme ça. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à mille milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul, la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre. » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé, comme les précédents. « Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci, et je lançais « C'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? Parce que chez moi, c'est tout petit. » Et Lévinas dit donc « Je pense qu'il s'agit pour le petit prince de ce fameux petit mouton qui est doux comme un mouton. Rien n'est plus difficile cependant. Aucun des moutons dessinés ne plaît au petit prince. Ils sont béliers, violents et cornus, ou ils sont trop vieux. Le petit prince méprise la douceur qui ne vient que d'un excès de vieillesse. L'aviateur dessine alors un parallélépipède, la boîte dans laquelle le mouton dort, à la grande satisfaction du petit prince. » Je ne sais dessiner la solution des problèmes insolubles. Elle dort encore au fond d'une boîte, sur laquelle veillent cependant des personnes qui se sont rapprochées. Je n'ai aucune idée, mais l'idée de l'idée qu'il faudrait avoir. Le dessin abstrait d'un parallélépipède, berceau de notre espérance. J'ai l'idée d'un possible, ou peut-être d'or l'impossible.
Oui, c'est effectivement, j'aime beaucoup ce passage. Du Petit Prince et l'usage qu'en fait Lévinas. Je rappelle que c'était une conférence prononcée pour l'anniversaire des 10 points de Seelisberg et la naissance de l'amitié judéo-chrétienne en France avec de grandes figures comme Edmond Flegg, René Cassin, etc. Et il a décrit donc cette amitié judéo-chrétienne comme une espèce, comme un parallélépipède sur lequel les gens sont penchés. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais le dessin hypothétique d'un mouton. Et voilà, il respecte la part de mystère qu'il y a au début de cette histoire qui est encore une fois une histoire commune.
Quelle est son attitude personnelle par rapport à Jésus Lévinas? Est-ce qu'il en a déjà parlé directement? Parce que vous le connaissez bien, donc...
Oui. Lévinas était dans la lignée de Franz Rosenzweig qui a théorisé l'idée qu'il y a deux vérités, que la vérité religieuse est scindée en deux et que c'est une modalité de la vérité même que d'être double et que juifs et chrétiens sont ouvriers dans la même vérité. Tout en étant, c'est-à-dire judaïsme et christianisme, sont deux voies parallèles qui ne sont pas appelées à se rencontrer. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de syncrétisme. Chacun est dans sa voie, mais chacun œuvre pour la vérité.
Lélian Vard.
Oui, et d'ailleurs, vous en parlez beaucoup, et c'est vrai que cette affaire de boîte est très intéressante parce que ça dépend aussi du regard qu'on porte sur les choses. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans la boîte, la figure qu'aura le mouton, c'est-à-dire au bout du compte, ce dialogue et la manière dont on reçoit l'autre, dépend énormément du regard que l'on a soi-même. C'est-à-dire que l'aviateur qui a dessiné la boîte, il n'a pas vu dedans qu'il y avait un mouton. Donc ça dépend beaucoup de cela. Et c'est pour ça que j'étais très touchée que vous citiez évidemment assez longuement Lévinas, parce que je pense que quand même, Lévinas, c'est le, s'il y a un grand penseur de l'autre et de l'accueil de l'autre au XXe siècle, vous ne me contredirez pas, je crois, c'est bien Emmanuel Lévinas.
Absolument, mais je veux rendre hommage aussi à tous ces chercheurs qui ont fait un travail admirable sur les évangiles pour dire à la fois la proximité et la distance, parce que distance il y a, j'ai parlé tout à l'heure je veux revenir d'un mot là-dessus, d'un certain nombre de choses comme l'accomplissement, la vision du Messie, l'incarnation, qui sont la Trinité, autant de choses qui sont
Ça, c'est pas les évangiles, la Trinité, l'incarnation, oui. C'est quand même
postérieur.
C'est une évolution théologique qui suscite même des interprétations parmi les chrétiens.
Oui. Mais vous avez par exemple quelqu'un comme Jacob Neusner qui pointe un certain nombre de choses qui sont quand même essentielles aux yeux d'un juif. Deux choses dans lesquelles Jésus a pris une autre route. Quand il dit, par exemple, qu'il est dans la tradition, mais quand il dit « vous pouvez guérir le jour du Shabbat », ça pose aucun problème parce que c'est dans les textes juifs, on peut enfreindre le Shabbat pour une guérison. Mais quand il dit « vous pouvez tirer les épis le jour du Shabbat », ça c'est totalement, on peut prendre les choses de la manière qu'on veut, c'était...
Donc il a transgressé certaines choses.
Ouais. Par rapport au judaïsme de l'époque. Il y a une deuxième chose, quand il dit « il vous a été dit que, et moi je vous dis que ». Il vous a été dit que, et moi je vous dis que, ça,
il se met au-dessus de la loi,
la tradition juive de l'époque comme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le judaïsme est quand même dans la transmission, dans l'héritage, dans la continuité, dans l'engendrement. Et chacun se place dans la continuité de celui qui l'a précédé. Il y a même le fameux dicton « Quiconque dit quelque chose au nom de celui qui l'a dit apporte la rédemption au monde ». Et tout d'un coup, il y a un homme qui est... fin connaisseur de la tradition juive et qui tout d'un coup se lève et qui dit à son peuple « Il vous a été dit que, et moi je vous dis que, là il est en transgression ».
Un bref agenda culturel pour clore cette émission avec Salomon Malka, Lélie.
Oui, en fait, deux choses qu'on peut lire ensemble d'ailleurs. La première, c'est votre dictionnaire intime de la Bible, édité chez Armand Collin, Salomon Malka, qui est, comme son nom l'indique, un dictionnaire intime de la Bible. C'est-à-dire comment vous, vous ressentez, vous vivez ces choses que vous a apporté la tradition dont vous venez de parler. Comment vous les intégrer à votre vie personnelle. Donc ça, c'est une chose. Et puis, un petit manuel très bien fait chez Erol, qui s'intitule « La philosophie juive ». C'est fait par Marc Israël. Et c'est très synthétique, avec des petits quiz, des questionnaires, des encadrés. Mais justement, c'est l'avantage de ce manuel, c'est que c'est un manuel, que c'est très synthétique. Et on apprend beaucoup de choses sur la philosophie juive en général, de la Bible jusqu'à nos jours, mais aussi de l'apport de cette philosophie juive à la philosophie universelle. Donc, petit livre, petit manuel en fait, très, très utile comme livre de référence.
Salomon Malka, vous vouliez parler d'un livre d'Eri de Luca.
Oui, je voulais dire un mot sur Eri de Luca. J'aime beaucoup son approche biblique, l'approche biblique de cet écrivain italien qui a une histoire propre, qui est venu de l'extrême gauche et qui s'est mis à apprendre l'hébreu pour mieux goûter le texte. Et c'est quelqu'un qui, dans ses écrits, restitue ce fond poétique hébreu dont nous avons parlé tout à l'heure à propos des évangiles, parce que je suis sûr que le sermon sur la montagne en hébreu, ça a un goût particulier.
Et oui, puis, et ça s'intitule « Et il dit » en fait. Hein, vous vouliez parler particulièrement de « Et il dit », le livre d'Eri de Luca, qui en effet est très beau. C'est une forme de méditation poétique sur le décalogue.
Il y a un deuxième livre de poèmes, parce qu'il est poète, en italien et en français. Et je recommande particulièrement une balade, une promenade entre Eri de Luca et Amos Oz, dont nous avons parlé tout à l'heure, où il est question de des gouttes qui tombent, et c'est un poème sublime.
Voilà, on est obligé de clore cette émission. Donc, je rappelle Salomon Malka, Jésus rendu aux siens, chez Albin Michel, collection Espace Libre. Merci beaucoup, Salomon, d'être venu aux Racines du Ciel.
Merci à vous.